Mémoire et paysage. Une série de 66 entretiens de Sylvain Faure avec André Tuboeuf. Aujourd'hui, épisode 8, l'aventure, la double culture.
André Tuboeuf, nous vous avons laissé la dernière fois à Beyrouth, au Liban, où vous avez découvert d'une certaine façon la France, pas toujours sous son visage le plus réjouissant. Vous nous aviez parlé notamment de ces femmes qui se sentaient en territoire conquis. J'avais envie de vous poser une question avant de poursuivre votre itinéraire dans l'ordre chronologique. J'ai le sentiment que, et nous en avions parlé, que vous avez toujours vécu d'une certaine manière, géographiquement, culturellement ou intellectuellement et même familialement, aux marches d'un certain monde, du monde, parfois du monde civilisé. Et là, en l'occurrence, il y a quelque chose qui me donne envie de vous poser une question qui anticipe sur la suite. Vous avez été en France l'importateur d'un certain nombre de repères culturels. Vous avez été un homme du passage. Vous avez fait venir littéralement en France une attention nouvelle à la musique, qui en France, on le sait traditionnellement, était considérée, il suffit de lire d'ailleurs les écrivains et les mémorialistes français, étaient considérés comme une chose assez secondaire. Chose secondaire que vous avez réussi par votre travail à remettre au centre d'un certain nombre d'attentions. Vous avez établi des passerelles avec des cultures différentes, notamment avec l'univers allemand, mais aussi également avec la musique italienne, bref, avec une espèce de sphère qui n'était pas strictement française. Vous avez très volontairement et volontiers aussi fait entrer en France des chanteurs, des chanteuses, des musiciens qui, avec la France, avaient des liens relativement distants, à la fois avec la langue française, avec la culture française, avec même la musique française pour beaucoup. Et en somme, la question que je me pose, c'est est-ce que cette enfance dont vous nous avez parlé, cette enfance en Orient, vous semble vous avoir prédisposé à cette situation à la fois d'intermédiaire, de passeur, mais aussi vous avoir prédisposé à cette position un peu au milieu des cultures, un peu entre deux univers. Qu'en est-il pour vous de cette relation entre votre enfance et tout ce que vous nous en avez dit, et ce qui sera un peu plus tard, même des années plus tard, cette situation très particulière que vous avez occupée en France de défricheur et d'importateur, je le répète, de culture, de zones de connaissances très, très étrangères, au fond, et peut-être même peut-on imaginer que dans les années 50 et même 60, il n'y avait guère plus étranger à la France qu'une certaine tradition de culture allemande. Elle était devenue distante pour bien des raisons historiques et culturelles. Qu'en est-il de cette situation que vous avez occupée dès votre enfance, et puis par la suite dans ce qui a été votre activité, dont je n'oublie évidemment pas l'activité de professeur.
Écoutez, si par chance ou par mérite, je ne sais pas, je suis arrivé à devenir un peu passeur pour quelque chose, et si moi-même je suis venu de ce que vous appelez les marches, c'est-à-dire quelque chose qui est plus loin vers l'Est et qui procède d'autres horizons et d'autres racines, tant mieux si ça s'est effectivement passé, mais alors c'est tout simplement l'envers de ce que j'ai dû moi-même vivre en me ressentant moi-même, pour commencer, comme un exclu, comme quelqu'un qui n'a pas droit à ce que les autres ont, qui, comme je crois vous l'avoir déjà dit, un peu comme le juif aurait son violon avec lequel il peut partir, sauf que je n'avais pas de violon, ne sachant pas jouer le violon. J'avais ma mémoire, ce que j'avais vu, et qui me tenait lieu à la fois de racines et de culture, étant donné les études que les circonstances m'ont obligé à faire pendant mes 15 premières années. Et probablement lorsque je suis arrivé en France, le fait est que lorsque je suis arrivé dans mon hippocagne de Louis-le-Grand, j'y ai eu du mal, mais enfin, j'ai survécu. Et si j'ai survécu malgré les handicaps techniques absolument extravagants que je subissais alors, il a bien fallu que par quelque côté j'ai en moi, à ce moment-là, j'ai été porteur en moi-même de quelque chose que les autres n'avaient pas. Bien entendu, j'étais tout à fait incapable de l'analyser. Probablement, j'en suis encore incapable de l'analyser aujourd'hui. Mais il est clair que, d'une manière ou d'une autre, si je ne suis pas arrivé en France ayant le latin des autres, les bonnes études bien faites des autres, la musique qu'on travaille dès son jeune âge, etc., etc., il fallait bien que j'aie autre chose en plus, qui n'était pas du tout le talent ou la facilité, mais qui était un contenu. Des choses vues, des choses entendues, et des choses entendues qui n'étaient pas la musique, mais une sorte d'expérience du monde, une expérience des paysages du monde, une expérience de ce passé du monde qui est vivant dans le présent de l'Orient, tel que je l'ai connu, et que les autres n'avaient pas. Et sans que je me sente en rien comptable d'un trésor dont j'ai été porteur tout à fait à mon insu, il est certain que je me suis rendu compte que c'était à peu près le seul atout, le seul plus que je pouvais avoir sur mes petites colonnes et dans mes petits barèmes, à côté de toutes les autres choses qui étaient différentes. Et en un sens, cette différence qui a failli me tuer, m'écraser, cette différence que je n'ai pas rejeté, que je n'ai pas caché, que j'ai toujours prise et fait prendre par les autres comme ce qu'elle était, c'est-à-dire quelqu'un qui vient d'ailleurs, qui ne sait pas la même chose que vous, qui ne prétend pas vous donner de leçons, mais qui est... J'étais porteur de quelque chose. À mon insu, probablement, j'étais porteur de l'émerveillement. L'émerveillement et l'admiration. L'émerveillement et l'admiration ne sont pas des tournures d'esprit ou d'âme très particulières à la France, au génie français, je veux dire. En plus, telle que la France, au moment où je l'ai abordée, se trouvait, c'est-à-dire presque à la sortie du traumatisme de la guerre, de la défaite, de l'occupation, il avait beau y avoir la victoire au bout, pour les Français qui étaient restés en France, c'était, voilà, on sort de l'occupation et on sort d'années vraiment noires. Il n'y avait pas de raison véritable de dire cocorico. Eh bien, la capacité que j'avais, et que j'ai toujours gardée, j'espère, d'admirer, de m'ouvrir par conséquent, de m'émerveiller. La chance que j'avais eue, c'était voilà, d'être ouvert devant des paysages qui étaient des paysages merveilleux, de n'avoir eu autour de moi, par cette espèce de sélection immédiate qui se fait à l'étranger, que des Français, pas les meilleurs possibles, mais enfin, du même genre que nous étions nous-mêmes, c'est-à-dire dans un milieu qui, au moins en cela, était cohérent et était protecteur. D'être à l'abri d'un certain nombre de querelles intestines, même si on n'était pas à l'abri d'un certain nombre de menaces portées par la Turquie, par la guerre. J'ai vécu avec ce sentiment qu'il était beau d'être au monde, que le monde était une chose belle, qu'il n'était pas mauvais d'être naïf, et en un certain sens, je ne dis pas qu'il n'est pas nécessaire d'apprendre pour savoir. Je ne vais pas dire comme les marquis ou les faux marquis de Molière, mais que ce n'est pas à la suite du travail le meilleur possible, ce n'est pas à la suite des choses les plus conventionnelles possibles qu'on arrive au résultat le meilleur possible. C'est en prenant le chemin sur lequel il se trouve qu'on est et en étant soi-même comme on l'est. Bon. Et si je me suis dit cela, je me suis dit en connaissant mon infirmité et plutôt mes lacunes que mes forces. Donc ce n'est pas du tout par vanité ni par goût de m'affirmer moi-même, mais simplement par impossibilité d'être autrement. Et c'est la raison pour laquelle, dès que j'ai été en France et que j'ai commencé à sortir tout de même du premier souterrain technique où je me suis trouvé, qui a duré largement deux ans, et où simplement je peux dire que j'ai survécu parce qu'on m'a laissé vivre là à côté, que personne ne m'a voulu de mal et qu'on ne m'a pas foutu dehors. Mais à partir du moment où j'ai pu effectivement faire fonctionner cette sorte de moi que j'avais laissé en paix et qu'on avait laissé en paix, qui était dans une espèce de sommeil, d'attente et d'imprégnation, eh bien, le souvenir et l'effet vivant de mon soleil natal, de ce fatalisme d'Orient qui est en même temps un optimisme et une confiance faite à la vie, une confiance faite pas aux institutions et pas aux nations peut-être, mais aux individus en tout cas, à la générosité, à l'hospitalité des individus, c'est-à-dire au fond à la vie en général. Je pense que tout cela a ressorti de moi très fort et très simplement, parce que voilà, ce long souterrain où j'ai été ne lui avait pas fait de mal, personne n'avait cherché à me gauchir ou à me convertir, je n'avais pas moi-même essayé de m'aligner inutilement et impossiblement au moment où ça n'était vraiment pas techniquement possible. Et voilà, j'ai pu garder ma naïveté émerveillée et aimant admirée d'enfant d'Orient, c'est-à-dire un peu béni des dieux, qu'il soit pauvre ou riche, parce que ce n'est pas la richesse ou la pauvreté qui font la différence en Orient, c'est la capacité d'ouvrir ou de ne pas ouvrir les yeux avec bonheur à ce qu'on voit autour de soi. Mmh. Je ne sais pas si je vous ai raconté qu'à Beyrouth, une des choses qui m'avait le plus profondément marqué, alors que vraiment j'ai pu détester un certain nombre des Français qui y arrivaient sous les armes de la France libre et un peu avec l'arrogance des femmes de sous-officiers qui envahissaient le marché de Beyrouth. Mais une des choses qui m'ont le plus frappé, le plus touché, c'est cette petite famille absolument pauvre, plus que pauvre, misérable, qui vivait dans une petite rue perpendiculaire, mais vraiment une rue minuscule, un passage simplement, perpendiculaire à la rue Achrafieh où nous vivons. Et je passais assez souvent par là pour aller à l'école, et je passais par là exprès pour avoir le plaisir de les voir, parce qu'ils ont dû y rester une saison entière. Ce n'était même pas une maison, c'était au rez-de-chaussée d'une maison non achevée ou à peu près en abandon, quelque chose qui était un garage. Mais un garage dont le rideau de fer était toujours levé, c'était voilà, hiver comme été. Et dans cette pièce du garage, au lieu qu'il y ait des bouteilles et des bidons d'essence, il y avait une famille. Mais une famille jeune, une famille jeune et une famille visiblement heureuse. Il y avait un papa débraillé, dépnaillé, en haillons, rouquin, un peu blondasse, ce qui est assez rare chez les Libanais, une femme très brune, deux petits-enfants. C'était pas propre, mais c'était pas sale. Ils n'avaient pas à manger beaucoup tous les jours, mais ils étaient visiblement heureux, au point que passer devant ce garage ouvert m'apparaissait à moi, gamin de 10-11 ans que j'avais à l'époque, comme une espèce de plaisir que je me donnais à moi-même sur le chemin de l'école et en rentrant à la maison. Et ça m'a frappé extraordinairement parce que on faisait tellement de différences autour de nous entre les riches et les pauvres, entre la nécessité de gagner sa vie, l'horreur qu'il y a à être gamin des rues, il ne faut surtout pas être cela, il ne faut pas déchirer sa culotte en jouant, il ne faut pas apprendre de gros mots, etc. Il ne faut surtout pas imaginer qu'on puisse aller vivre dans un garage, la porte de métal par-dessus le marché ouverte et devant, et coram populo. Eh bien, moi, j'avais le sentiment que je me trouvais là en face d'une façon de vivre qui était légitime, simplement parce qu'elle était visiblement heureuse, et que l'idée d'une exclusion, d'un manque, d'une justice qui était due aux uns, qui était donnée aux uns et qui était refusée aux autres, aucune quantité de ressentiment, mais au contraire un épanouissement absolu, comme si ce ciel-là, cette nature-là, le genre d'air qu'on pouvait respirer dans cette latitude et longitude, et avec ce passé historique pas loin sous les yeux, ça suffisait. Et je pense que j'ai dû rapporter avec moi en France quelque chose de cela, et que ça a été un peu mon viatique. Et quand on a ce viatique-là, qui est essentiellement, vous voyez, un viatique d'optimisme, en un sens, mais aussi d'hospitalité, je veux dire, la maison est ouverte. La maison est ouverte et on est les uns chez les autres, et ça ne fait pas de difficultés, ce n'est pas un problème. Ces maisons fermées qu'il y a en France, ces portes qui ne s'ouvrent pas, ces sourires qui se font et qui sont très réels, mais qui ne sont suivis d'aucune invitation concrète, d'aucune main réellement tendue. Je n'ai pas eu à en souffrir tout de suite dans la mesure où, dans l'internat d'un lycée, ce sont d'autres lois qui fonctionnent. Mais sitôt que j'ai été mis sur le pavé de Paris, je l'ai ressenti avec une espèce de crainte et de douleur aussi, tellement je trouvais cette société bourgeoise différente de la société bourgeoise que j'avais connue en Orient. Mais je dois dire que probablement j'apportais avec moi, sans en avoir le moins du monde conscience, cet air de gaieté, de gentillesse, de disponibilité, cette disponibilité qui est le principe même de l'hospitalité, quoi. Et que ça a touché un certain nombre de Français qui, effectivement, m'ont ouvert leurs portes beaucoup plus qu'ils ne l'auraient fait à quelqu'un qui aurait été simplement brillant, ayant réussi de jolis concours, enfin, et pouvant éventuellement prétendre à la main de la fille de la maison, étant donné que c'était devenu un jeune homme d'avenir. Donc, je n'ai peut-être pas fait autre chose dans le restant de ma vie que retourner précisément, comme je l'ai fait à Strasbourg pendant... Mon Dieu, j'y ai vécu tout de même 45 ans, à ce qui est véritablement les marches de la France, et dans une obligation de perméabilité, d'accès qui est laissé à ceux qui se présentent, les élèves, les passants, les étrangers à qui on donne l'hospitalité, et dont le reste de la France ne voulait pas, parce qu'il n'était pas célèbre, ou qu'il n'était pas populaire, ou qu'il n'intéressait personne, et à qui on montrait sur l'exemple particulier d'une famille dans la lointaine Strasbourg, que les Français peuvent être accueillants, ouvrir l'oreille, et ne pas vous faire vous sentir, vous, à l'étranger, exclu. Mais certainement, ce fait d'être né à l'étranger, d'avoir eu à combattre perpétuellement, l'obstacle et le handicap terrible d'une langue étrangère que tous les autres parlent, cette différence dont j'ai réellement souffert et qui aurait pu réellement m'écraser et me laminer à partir du moment où je me suis trouvé en France dans les conditions de la véritable concurrence, eh bien c'est cette différence assumée qui n'a pas été pour moi objet de désespoir, qui est devenu peut-être ma carte maîtresse, la carte maîtresse la plus forte dans un jeu qui n'était pas du tout un jeu gagnant.
Votre passé...
Mais l'Allemagne, c'est autre chose. Même la culture allemande, c'est autre chose, dont on reparlera, bien entendu.
On en reparlera. Votre arrivée à Paris, votre départ pour Paris, pose énormément de questions. Je trouve que vous nous avez dit que votre mère s'inquiétait de vous voir faire de la bicyclette et pourtant on vous met sur un bateau pour Paris. Et vous avez 16 ans, 15 ans ?
Oui, j'ai 15 ans, bien entendu.
Vous arrivez là-bas, avez-vous de la famille là-bas ? Comment cela se passe-t-il ? Première question, qu'est-ce qui prend à vos parents de vous mettre sur un bateau ? Est-ce que vous avez de la famille là-bas ? Pourquoi une Hippocagne, qui est probablement... Une des serres les plus chaudes, et surtout celle de Louis le Grand, qu'on puisse imaginer dans le système éducatif français, autrement dit, déjà pour tout élève bien implanté et qui a 18 ans lorsqu'il y entre et qui a fait tout son cursus dans le système le plus classique du monde, c'est déjà considéré comme potentiellement un choc possible, et vous arrivez avec toutes les impréparations qu'on peut imaginer. Vous arrivez sous un ciel totalement nouveau, à tous égards, les usages, et dans un contexte historique où toutes les plaies sont béantes, qu'elles soient physiques, les blessés de guerre, les ruines, etc., ou morales, la France en charge de se réinventer un destin, ou en tout cas un sort, et de naviguer dans un monde totalement nouveau, et on vous jette dans ce bain-là. C'est quand même une série de contre-indications, ou en tout cas d'obstacles à surmonter, absolument incroyable.
Oui, mais je dois dire quand même un certain nombre de choses, dont la première est tout simplement, et quoi d'autre? Et quoi à la place? Alors, je dois dire simplement que s'il n'y avait pas eu la guerre, j'aurais fait, à l'évidence, ce que faisaient tous les petits garçons dont les parents étaient dans l'Orient, et dont les parents ne voulaient pas que l'avenir personnel soit détruit par le fait d'être loin du pays, j'aurais fait comme a fait mon frère aîné avant la guerre. Mon frère aîné, quand il a eu 11 ans, a été envoyé à Sainte-Croix, de Zongoulac jusqu'à Sainte-Croix de Neuilly, pour y entrer en 6e. Et puis voilà, et puis c'est ce qui me serait arrivé automatiquement s'il n'y avait pas eu la guerre qui l'a empêché. Bon, c'était donc un destin normal. Nous avions bien entendu la famille en France, pratiquement aucune. Il y avait une cousine germaine de mon père, qui vivait elle-même très difficilement. Mais enfin, du côté paternel, il n'y avait rien du tout. Mais enfin, du côté de ma mère, évidemment, avec la quantité invraisemblable de cousines germaines qu'elle avait, nous avions quand même, non pas les frères directs de ma mère, mais des cousins germains de ma mère. Il y en avait plusieurs qui avaient été les correspondants pour mon frère Jean déjà avant la guerre. Et donc ce problème-là était réglé. En dehors de l'internat où nous devions passer six jours dans la semaine, il y avait un demi-jour et une autre demi-journée où on pouvait aller chez des correspondants, chez des parents, être assuré. Bon, ma mère ne prévoyait pas du tout ce que pouvaient être des cartes de rationnement, n'en avait aucune espèce d'idée. Et ne savait pas qu'il me serait très difficile à moi de trouver même du pain, je ne veux même pas parler de beurre. Mais ce côté pratique, cet éloignement nécessaire, même s'agissant de quelqu'un qui est supposé être fragile ou poser des problèmes, c'est une chose qui allait de soi et qui était inscrite dans mon parcours. En fait, la guerre n'avait fait que retarder de 5 ans le moment où je devais partir, et ça m'avait partir à 15 ans et demi, au lieu de partir à 10 ans et demi, ce qui probablement est beaucoup plus cruel. Mmh. Ce qui était différent, et dont personne autour de moi ne s'est rendu compte, c'est que s'il est cruel de partir quand on a 10 ans et demi, quand on a 15 et demi, on est dans un tout autre état vis-à-vis de soi-même, on est dans un stade tout à fait autrement avancé de son propre développement, et les risques qu'on court pour soi-même sont des risques infiniment plus grands que ceux qu'on peut courir à 10 ans ou à 11 ans. À 10 ans ou à 11 ans, on court le risque d'attraper une grippe et de crever de faim, mais c'est à peu près tout ce qu'on court comme risque. À 15 ans, 16 ans, on court tous les autres risques possibles quand on se trouve comme ça, assez brutalement et abruptement, jeté en dehors, enfin, du cocon familial et jeté dans un internat de garçons, dans le froid supposé de l'hiver parisien et dans les privations, en tout cas, dont on se fait à l'avance une idée, étant donné que c'est tout de même très peu de temps après la guerre. Mais si j'étais resté à Beyrouth, j'y aurais fait quoi? J'y aurais attendu pendant un an, pendant deux ans, en attendant de savoir quoi faire, que de toute façon je n'aurais pas fait à Beyrouth. Mmh. Et qu'est-ce que j'aurais fait? Quel pourrissement sur place j'aurais pu subir à Beyrouth? Quelle manière intelligente ou pratique j'aurais eu de rattraper ma damnable avance, celle qui faisait que, voilà, j'avais mes deux parties de bac alors que j'avais 15 ans, mais que je n'étais... de niveau pour rien, ni techniquement et universitairement, ni à titre psychologique, au titre de mon développement personnel. Il faut ajouter là-dedans que, bien entendu, mes parents n'avaient pas la moindre idée, personne n'avait la moindre idée. C'est moi qui ai dû apprendre à mes propres dépens cette chose très simple, à savoir que tout ce que j'avais fait pendant 4 ans ou 5 ans à Beyrouth pendant la guerre ne valait rien. Personne autour de moi n'aurait pu dire ce qu'il a fait ou rien, c'est pareil. Personne n'aurait pu dire que la mention que j'avais eue à mon bac, comme tout le monde, ne valait rien et ne correspondait à rien qui soit compétitif en France, et ça par la faute de l'enseignement tel qu'il avait été laissé, aussi bien à l'université Saint-Joseph par le départ des jésuites, des meilleurs jésuites, que à la mission laïque par le départ de la mission laïque tout entière. Bon, donc ça, personne ne pouvait s'en rendre. À côté de cela, il fallait bien que j'aille suivre une filière quelconque, mais laquelle ?
Retrouvez tous les épisodes de ces entretiens sur la page cobos.com/tubeuf.